On va parler de biodiversité.
Les semences sont un vecteur de biodiversité.
C'est sérieux, là, ce que vous dites ?
C'est le paradis pour les abeilles.
Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises.
L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France ?
Et on a plutôt changé de point de vue.
La France n'est jamais aussi belle que pendant la cultive.
Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture.
Bonjour à tous, je suis avec Stéphane Radet. Nous sommes en 2050. L'agriculture, l'élevage en 2050, vous l'imaginez comment, Stéphane Radet ?
Un élevage performant, présent sur tous les territoires en France et qui produit pour notre alimentation et qui produit également pour l'exportation.
Retour en 2020 donc avec Stéphane Radet, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de nutrition animale engagée pour la sécurité sanitaire et la durabilité. Stéphane Radet, vous êtes directeur du SNIA. Le SNIA, c'est le syndicat national des industriels de la nutrition animale. Donc c'est un peu tous ceux qui produisent des aliments pour les animaux d'élevage, c'est ça ?
C'est bien ça, oui. Une organisation professionnelle qui regroupe une centaine d'entreprises présentes dans toutes les régions de France.
Avant de parler de la nutrition animale en tant que telle, ils se portent comment les industriels de la nutrition animale ?
Ah, ce sont des entreprises performantes qui sont obligées d'être performantes parce qu'effectivement de leur activité dépend la compétitivité de l'élevage. Donc ce sont des entreprises qui font une activité très exigeante pour fournir des aliments qui vont permettre à l'élevage en France de fournir des produits de qualité et qui répondent à l'ensemble des attentes de tous les consommateurs.
Alors, deux axes forts mis en avant par le SNIA. Le premier, c'est la nutrition animale engagée pour la sécurité sanitaire, c'est-à-dire ?
Ah, la sécurité sanitaire est une obligation pour notre secteur d'activité parce que de la sécurité sanitaire des aliments pour animaux dépend aussi la sécurité sanitaire de notre alimentation.
Ne n'oublions pas effectivement ce que mangent les animaux ensuite et nous le mangeons.
C'est exact.
Indirectement.
Donc ce sont des entreprises très engagées qui, au début des années 2000, constatant que l'impact des matières premières utilisées pour l'alimentation des animaux d'élevage avait une part prépondérante dans la garantie au niveau sanitaire apportée à notre alimentation, ont choisi de s'engager collectivement et de construire une démarche qu'on appelle OCALIM, qui a pour ambition de contrôler et de vérifier tous les process de production de notre industrie afin d'apporter une garantie sécurité sanitaire sur l'alimentation animale en France.
Est-ce qu'il y a une évolution, je ne veux pas dire une révolution, par rapport à il y a 10, 20 ou 30 ans, justement, en matière de nutrition, d'aliments pour les animaux d'élevage, il y a des évolutions, des transformations ?
La nutrition animale est une science active. On en apprend tous les jours, on apprend à utiliser de nouvelles matières premières, on apprend à réaliser de nouvelles recettes et surtout à s'adapter aux demandes qui évolue au niveau de l'élevage et au niveau de la consommation.
Ne connaissant pas le sujet en particulier, y a-t-il des tendances ? On utilise par exemple pas d'OGM ou moins d'OGM ? On tend vers des recettes, on va dire aussi, innovantes ?
Oui, le but ultime, le but premier des fabricants d'aliments, c'est de répondre aux attentes de l'élevage. Et de tous les élevages, quels que soient les segments de marché, quelles que soient les exigences qui sont ceux exprimés par le consommateur, par les filières agroalimentaires, par la grande distribution. Et donc chaque filière, chaque élevage a ses propres besoins, ses propres attentes et le fabricant d'aliments s'adapte à ses besoins. Vous citiez les demandes en termes de sans OGM qui se sont développées ces 10 dernières années, même ces 20 dernières années. C'est un sujet ancien déjà en nutrition animale. Les fabricants d'aliments ont adapté leurs recettes pour pouvoir apporter une garantie aux élevages qui le demandaient d'une alimentation garantie sans OGM conformément à la réglementation. On peut citer également d'autres exemples puisque la nutrition animale a un impact sur la qualité des viandes, des œufs, du lait, plus ou moins gras, oméga-3, qualité organoleptique. Tous ces critères sont intégrés dès la nutrition animale qui, associés aux espèces animales, associés aux conditions d'élevage, vont fournir des produits alimentaires qui correspondent aux différentes attentes de consommation.
On rappelle pour le type d'élevage, sont inclus bien sûr la volaille, les ruminants, les porcs par exemple.
Oui, ce sont les trois espèces principales qui sont élevées en France, mais on pourrait également citer toutes les espèces, les escargots, les poules pondeuses, les chèvres, les moutons, toutes les espèces.
Beaucoup d'innovations donc c'est-à-dire que concrètement, allez, on fait comment en fonction des attentes, des besoins des éleveurs, on va concevoir de nouvelles recettes. Par exemple, vous parliez des poules pondeuses ou des escargots de manière, j'imagine, plus anecdotique. C'est ça, on essaye d'élaborer une recette qui réponde à des besoins, à des attentes.
À des attentes très spécifiques. C'est ce qu'on appelle donc la science de la nutrition animale, parce que vous imaginez bien, on ne va pas nourrir un porc comme on va nourrir une volaille. Chaque espèce a ses propres besoins. Et même au sein d'une espèce, en fonction du stade physiologique, de la naissance jusqu'à la phase d'engraissement de l'animal, on va adapter la recette le plus précisément possible pour répondre à ses besoins.
En France, on est pointu, j'ai envie de dire, les Français sont pointus par rapport aux autres producteurs dans le monde.
Ah, oui, on a un savoir-faire qui est reconnu à travers le monde et qui s'exporte.
Et je le rappelle, ça pèse, puisque le SNIA, c'est 314 usines, 201 entreprises, 20 millions de tonnes d'aliments produits en 2019. Oui, ça pèse, ça veut dire quelque chose. Deuxième point que vous développez, sur lequel vous appuyez, c'est la nutrition animale engagée pour la durabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un sujet passionnant. En 2016, de nombreux acteurs de la chaîne alimentaire, et donc ça dépasse le secteur d'activité de la nutrition animale, du fournisseur de matières premières jusqu'à la GMLS, jusqu'à des grandes marques nationales, en passant par tous les acteurs entre les deux, et notamment et principalement les fabricants d'aliments pour animaux, se sont regroupés autour d'une table pour réfléchir à ce qu'est la durabilité en nutrition animale. Et tous ces acteurs ont pris une décision importante de constituer une plateforme qu'on appelle Duralim. Duralim est une plateforme collaborative qui rassemble des acteurs, donc des entreprises, mais également des organisations professionnelles qui ont défini ce qu'est la durabilité en nutrition animale pour assurer la durabilité de l'élevage et donc la durabilité de notre alimentation. Et ces acteurs se sont engagés pour arriver au plus tard en 2025 à une garantie 100% durable pour l'alimentation des animaux d'élevage en France, en intégrant un objectif de lutter contre la déforestation au plus tard en 2025. Tous ces acteurs se sont engagés et aujourd'hui mettre en place des actions très concrètes pour arriver à leurs objectifs.
Quelques actions très concrètes. Vous parlez de déforestation. Pardonnez-moi, je ne fais pas la corrélation entre la production d'aliments pour les animaux et la déforestation, c'est-à-dire ?
Aujourd'hui, en alimentation animale, 80% des matières premières que nous utilisons sont d'origine française. Pour le reste, ce sont des matières premières qui ne sont pas disponibles sur le territoire français, ni même européen, et nous avons recours aux importations pour couvrir nos besoins.
C'est soja notamment, par exemple.
Notamment le soja. Et effectivement, des questions se sont posées sur est-ce que le soja que nous consommons en France pour notre élevage peut être à l'origine de la déforestation, notamment en Amérique du Sud. Ce point fait l'objet d'une attention très particulière par les acteurs qui ont décidé de financer des actions et des études afin d'objectiver cette question et de mettre en place des actions, encore une fois, pour garantir au plus tard en 2025 que leurs achats ne sont pas à l'origine de déforestation.
D'autres exemples, on l'a vu pour le soja, un ou deux autres exemples concernant justement cette alimentation qui respecte la durabilité, le côté durable. Vous avez un ou deux exemples à nous donner?
Alors, je citais nos approvisionnements locaux. On est engagé pour le développement de cultures de protéagineux sur le territoire national. On attend avec impatience la publication d'un nouveau plan protéines en France et en Europe pour couvrir une partie de nos besoins, en tout cas améliorer notre indépendance sur ce niveau. On travaille également sur l'impact environnemental de la production d'aliments composés pour animaux, parce que cet impact environnemental a des effets sur l'impact environnemental de l'élevage. Donc plus nous serons performants au niveau de l'alimentation animale, plus l'élevage sera performant. C'est un axe de travail qui est fort. On travaille également sur, c'est un nouvel axe que nous allons développer à partir de cette année, pour travailler sur la biodiversité. Et au sein de Duralim, les acteurs ont décidé de réfléchir, s'engager et mener des actions en faveur de la biodiversité.
Vous êtes, je le rappelle, directeur du SNIA. Évidemment, vous êtes en proximité avec les éleveurs en eux-mêmes. Aujourd'hui, allez, un petit point sur les relations qu'il y a entre les consommateurs, la société et les éleveurs. Les choses sont un peu compliquées aujourd'hui.
Quand on est sur le terrain, et il m'arrive très souvent, le plus souvent possible, d'aller à la rencontre des éleveurs, des acteurs et des consommateurs, on s'aperçoit très rapidement que l'éleveur inspire la confiance et que les consommateurs sont en attente d'avoir de l'information, de la proximité avec la chaîne de production en amont de leur acte de consommation. Et donc moi, j'ai une vision très positive des choses parce qu'on voit que notre agriculture est appréciée. Effectivement, le consommateur aujourd'hui est exigeant, mais il est exigeant pour obtenir de l'information, pour donner du sens aux produits qu'ils consomment. Et
au-delà,
donc ça, c'est un enjeu qui est important.
Au-delà de l'ébullition sur les réseaux sociaux, par exemple.
Oui.
Stéphane Radet, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du SNIA, le Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale. Merci.
Merci à vous.
On va parler de biodiversité.
Les semences sont un vecteur de biodiversité.
C'est sérieux, là, ce que vous dites ?
C'est le paradis pour les abeilles.
Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises.
L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France ?
Et on a plutôt changé de point de vue.
La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive.
Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture.